bienvenue. Si vous nous rejoignez, on reste ensemble et en direct jusqu'à minuit. Autour de moi ce soir, Roselyne Bachelot, Pablo Pio Vivien, Bruno Jeudy et Frédéric Hermel. On est également ce soir avec Stéphane Selamy du service police-justice de BFM TV. On parle ce soir également de cette décision de la cour d'appel de Metz, cette décision qui interroge. La cour d'appel a relaxé un policier. Il avait été condamné en première instance à 18 mois d'emprisonnement avec sursis pour des violences sur sa famille. Et dans l'arrêt prononcé par la cour d'appel, le droit de correction est évoqué, Stéphane.
Oui, la cour d'appel de Metz, en fait, reconnaissait la réalité des violences décrites par les deux enfants, puisqu'il a été relaxé pour les violences commises sur sa compagne, mais évoquant un droit de correction reconnu aux parents dès lors qu'elles n'ont pas causé de dommages à l'enfant et qu'elles restent proportionnées.
Le droit de correction,
normalement, ça n'existe,
n'existe plus.
Non, depuis la loi de juillet 2019, ce droit n'existe plus en matière pénale.
Oui. Donc c'est une décision contraire à la loi ?
Oui, mais quand la loi est sortie, la loi du 10 juillet 2019, il y a un certain nombre d'associations de défense des droits de l'enfant, parce qu'on ne faisait que se mettre en raccord avec le droit international et en particulier avec la Convention des droits de l'enfant. Et la France
qu'on avait signé
en
89.
Et la France a été longtemps stigmatisée du fait de ne pas avoir fait cette législation. Mais tout le monde avait dit la loi est imprécise, elle ouvre des biais, ce sera très difficile de voir tout ça. Et je pense à des associations qui se sont beaucoup évidemment déployées sur ce sujet. Et on montre là à l'évidence que la loi du 10 juillet 2019 est effectivement incomplète et qu'il faut la compléter de façon très très forte. Les châtiments corporels, quels qu'ils soient, sont interdits sur les enfants, mais c'est simple.
Moi, ce qui me paraît dingue dans ce communiqué, c'est quand on parle de... Enfin, on dit qu'il n'y a pas de dommage. C'est-à-dire, le juge dit qu'il n'y a pas de dommage. Mais de dommages physiques, mais les dommages psychologiques, alors des gamins qui parlaient du climat de peur qu'il y avait quand ils étaient chez leur père. Ça, comment un juge peut affirmer qu'il n'y a pas de dommages? Ah, bah oui, le bleu a disparu, c'est plus rien. Mais enfin, c'est indélébile. Ouais. Enfin,
alors justement, de quoi parle-t-on concrètement? L'ex-femme de ce policier s'est exprimée au micro de nos confrères de C'est à vous. Et elle explique ce que la famille a subi, ce que les enfants disent avoir subi. On écoute.
Ces colères étaient folles. C'est pas seulement des gifles, même si on n'a pas le droit de gifler. On va au-delà de la fessée, on va au-delà des gifles, on va au-delà du tirage de cheveux. On est quand même dans des gestes qui vont jusqu'à étrangler un enfant, à le soulever du sol, à le coller au mur. Il faisait ses doigts et c'est son père qui le secouait par la tête. Mais tu vas faire tes doigts, mais tu vas écrire correctement. Il était rouge, il était paralysé, le gamin, il pouvait plus écrire. Un homme, un policier, va prendre son arme de service pour menacer son fils pour qu'il fasse ses devoirs. Non mais ça, c'était ma grande surprise, c'était mon grand choc, qu'il allait prendre son arme sur son enfant.
Voilà, il a donc été, on le rappelle, condamné en première instance à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, relaxé par la cour d'appel de Metz sur une décision qui semble donc illégale.
Oui, absolument, c'est assez incompréhensible et ça prend encore un peu plus de force en entendant le témoignage de la mère de famille, hein, qui décrit avec précision ce que les gestes accomplis par son mari, hein, donc qui vient en quelque sorte d'être blanchi par la cour d'appel. Alors on verra ce que dira la cour de cassation. Ça paraît assez invraisemblable que la cour de cassation puisse ne pas revenir sur ce jugement. Moi, je crois quand même que si on revient sur la loi de 2019 dont parlait Roselyne, ce qui est clair, c'est qu'elle s'applique, elle s'est appliquée instantanément sur tout ce qui est institutions, école, crèche et tout ça, mais que
les châtiments corporels à l'école sont interdits depuis 1803.
Oui,
hein.
Mais en tous les cas, cette loi qui est sur la violence ordinaire, mais c'est surtout ce qui est difficile. Ce qui est difficile, c'est dans la cellule familiale. Oui. Alors que on voyait des gens.
On retrouve les mêmes mécanismes qui sont à l'œuvre sur les violences.
C'est là où c'est compliqué.
Exactement.
C'est là où
pareil.
C'est compliqué, et c'est là sans doute où il y a eu une insuffisance d'explication, de démarche, de campagne pour essayer
faut
de.
Quand même,
et je pense surtout que ça sera long, en fait. les expériences qui, enfin, ce qui s'est passé à l'étranger montre que la diminution de ces violences ordinaires dans la cellule familiale, ça risque.
Parce qu'on le rappelle, et je vous donne la parole, Pablo, qu'effectivement cette loi de 2019, elle interdit donc les fessées, notamment.
Elle n'est pas très connue, la loi.
Elle n'est pas très connue, mais depuis 2019, il est interdit de donner des fessées à des enfants. Or, on apprend via un sondage réalisé par l'IFOP que 8 parents sur 10 affirment avoir recours à la violence physique ou morale, que 23% donnent encore des fessées, que 23% d'entre eux estiment que les violences sont encore acceptables. Donc cette loi, elle n'est pas encore tout à fait intégrée.
Exactement, elle n'a pas imprégné en fait dans la société, et c'est vrai qu'il y a encore une culture de certaines violences, hein, des violences plutôt légères sur les enfants qui continuent de perdurer. Après, je voudrais juste, par rapport à ce qu'on dit sur la décision de cette cour d'appel, enfin... c'est une décision isolée, c'est une interprétation isolée, en fait. Comment ? De la cour d'appel. Oui. Non, mais c'est une décision isolée, hein. C'est pas toutes les cours d'appel de France qui prennent la décision qui prennent le même type de décision. Et la deuxième chose, c'est que quand moi je suis allé regarder l'arrêt, et c'est assez intéressant la démarche juridique qui est proposée, c'est qu'il se base sur le rapport d'un psychologue. Et c'est un psychologue qui a dit qu'il n'y aurait pas de répercussions ni psychologiques ni physiques sur les enfants.
C'est faux de dire ça. Hein,
mais c'est dingue. Mais qu'un psychologue en fait dise des bêtises en matière pénale, parce que ou qu'ils savent pas comment ça marche, etc. C'est une chose. Qu'un juge et que plusieurs juges d'ailleurs fassent les mêmes erreurs, parce qu'a priori c'est une erreur quand même assez patente d'interprétation de la loi, en l'occurrence de 2019, mais aussi de toute une jurisprudence, hein, parce que depuis 2019 et même avant 2019, vous avez toute une série de décisions de justice qui allaient dans le sens justement de l'application stricte de la loi, toute violence, peu importe qu'elle ait un mobile ou des répercussions, est condamnée par le code pénal.
Mais il y a toujours des répercussions. Il y avait eu, de la part d'une association de droits de l'enfant qui s'appelle la Fondation pour l'enfance, une vidéo qui montrait au ralenti l'effet d'une gifle, même légère, sur la tête de l'enfant. Quand on sait qu'un enfant, un jeune enfant, son cerveau est en train de maturer, hein, il se passe des phénomènes. C'est pas un adulte, il est en construction dans sa physiologie. L'effet d'une gifle est tout à fait extraordinaire. Il y a l'humiliation, et puis il y a le fait aussi d'introduire la violence comme un acte légitime. Mmh. Donc c'est quelque chose qui va suivre ensuite dans son éducation. C'est une contre-éducation.
Et dans son rapport aux autres aussi.
Et dans son rapport aux autres.
Je rappelle donc ce que la cour d'appel de Metz dit. Elle s'appuie sur un droit de correction qui serait donc reconnu aux parents et autorise actuellement le juge pénal à renoncer à sanctionner les auteurs de violences dès lors que celles-ci n'ont pas causé un dommage à l'enfant, qu'elles restent proportionnées au manquement commis et qu'elles ne présentent pas de caractère humiliant. On est avec Jérôme Tibéri. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'avocat des enfants qui accusent donc leur père de violence. Lui se défend et parle d'une éducation stricte. Il dit voilà, j'ai simplement tiré les cheveux ou mis des fessées.
Bonsoir. Moi, il faut qu'on m'explique ce que ça veut dire une éducation stricte. Moi, je connais pas l'éducation stricte et je suis d'accord avec ce que vous avez dit en plateau. Le droit de correction qui a été installé dans cette décision, c'était un prétexte finalement parce que c'est des violences pures et simples. Lorsque vous avez des gamins qui viennent dire qu'on les attrape par le cou, qu'on les étrangle, qu'on les monte au mur, qu'on pose une arme de service sur le bureau pour faire les devoirs, on n'est pas sur de l'éducation stricte, on n'est pas sur de la violence éducative, comme ça a été noté dans la décision de la Cour d'appel. On utilise quand même le terme violence éducative. Moi, ça me choque, ce terme.
Vous dites que si on avait été face à des adultes, voilà, on ne réagirait pas pareil. En gros, cette décision, elle rend les enfants... elle ne met pas les enfants au même niveau que les adultes, en gros.
Non, elle ne met pas les enfants au même niveau que les adultes. Et on est en contradiction totale avec toutes les évolutions législatives. Pour vous donner un exemple, on parlait tout à l'heure de violence conjugale. Lorsqu'une femme est victime de violence conjugale et que les violences sont commises en présence d'enfants mineurs, c'est une circonstance aggravante. Et le tribunal correctionnel doit se prononcer sur un éventuel retrait de l'autorité parentale. Donc, on est en contradiction totale avec toute l'évolution qu'on a depuis des années. Mmh.
Comment réagissent les enfants à cette décision? Ils ont aujourd'hui, je crois, 10 et 13 ans. Est-ce que vous avez pu leur parler ces derniers jours?
Alors pour les enfants, c'est extrêmement compliqué. Vous savez, ils attendaient beaucoup de cette décision de la cour d'appel, la décision de première instance. C'était déjà un soulagement pour eux, dans la mesure où le tribunal correctionnel de Thionville avait reconnu ces violences et leur père avait été condamné. Aujourd'hui, c'est un grand pas en arrière pour eux parce qu'on doit leur expliquer qu'on aura une autre instance à hauteur de cassation qui, je l'espère, conduira à casser cet arrêt et un nouveau procès. Donc c'est compliqué pour eux aujourd'hui de se projeter dans l'avenir.
Vous vous pourvoyez en cassation donc ?
Oui, le parquet général a réagi très vite dans le cadre de cette décision. La décision a été rendue jeudi à 14h. Le parquet général s'est pourvu en cassation dès le vendredi après-midi. Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement rapide. Nous, évidemment, avec l'avocat de la maman, on s'est également pourvu en cassation et on espère qu'on ait une décision favorable à hauteur de cassation.
Est-ce que le père a toujours un droit de garde, de visite ? Quelle est sa situation vis-à-vis des enfants ?
Alors, on a une procédure qui est en cours devant le juge des enfants et une dernière décision qui a été rendue devant le juge aux affaires familiales. Le juge aux affaires familiales avait fixé la résidence au domicile de la mère et suspendu tous les droits du père.
Bon, c'est déjà ça.
Parce qu'on rappelle
le problème, c'est qu'avec une décision comme ça, forcément, vous avez quelqu'un qui est relaxé. Donc aujourd'hui, il serait en droit de solliciter à nouveau un juge aux affaires familiales pour demander à ce qu'il retrouve ses droits. Donc c'est vraiment très difficile.
Alors, la juge aux affaires familiales n'est pas sans être obligée d'être d'accord.
On va avoir une audience et on aura une décision d'ici 8 mois, 10 mois, 12 mois. Entre-temps, il a tout loisir de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales.
Parce que le contexte, Stéphane Selamy, c'est ça. C'est le divorce des parents et la garde alternée, une semaine sur deux.
C'est ça, un droit de visite.
Oui, c'est ça. Et lorsqu'effectivement les enfants étaient chez leur père, ils ont décrit des scènes de violence. Lui, vous le rappeliez tout à l'heure, a parlé d'une éducation rude sur ses fils. Il dit « j'ai simplement tiré les cheveux ou mis des fessées ». On a entendu le témoignage de la mère tout à l'heure qui ne correspondait pas tout à fait à la description faite par le père.
Non, mais avec l'histoire de l'arme posée sur le bureau, mais c'est
pour les contraindre à faire les devoirs.
Enfin, je veux dire, mais c'est impossible.
Mais excusez-moi,
les dégâts psychologiques pour les gamins, mais vous imaginez combien d'années ils vont pouvoir pour se remettre. Alors, il y a une chose importante, c'est que les psychologues pourront l'expliquer, ils ont eu le courage et la force de témoigner. Et ça, c'est assez rare sur les enfants qui subissent des violences, et à cet âge, notamment les violences sexuelles, mais dans ce genre de violence, c'est que là aussi, ils ont pu décrire les choses, et c'est au moins quelque part quelque chose peut-être un peu salvateur pour eux.
Alors, juste un point, il y a tirer les cheveux et donner des fessées, c'est toujours interdit par le code pénal. Hein.
Enfin, c'est toujours interdit par le code pénal.
Même le témoignage en fait du père.
Non, mais il reconnaît ces violences.
Condamné par le code pénal, 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Mais on le disait tout à l'heure, cette loi qui est passée en 2019, elle n'a toujours pas été vraiment intégrée par la totalité des Français. Et ce qui est assez révélateur, c'est que sur BFM TV et vous, c'est une plateforme sur laquelle les téléspectateurs peuvent échanger directement avec la rédaction. Et on a reçu beaucoup de mails comme celui-ci. La correction ne doit pas être le seul moyen d'éducation, évidemment, mais une claque n'est pas un traumatisme. Voilà, ça c'est quelque chose qui reste dans l'esprit des Français.
Je pense que cette loi a manqué d'accompagnement, de campagne, de sensibilisation, et c'est forcément long. C'est comme ça, c'est-à-dire que les mentalités, ces violences ordinaires doivent reculer, et je pense que les pouvoirs publics doivent accompagner de campagnes.
Est-ce qu'on peut rappeler le 119 ? Oui. Le numéro d'appel pour quand on repère une maltraitance sur un enfant, qu'on soit un accompagnant, un éducateur, un professeur.
Un voisin.
Un voisin, exactement, un proche. 119, il faut le signaler, on n'a pas le droit de laisser passer une souffrance, une maltraitance à un enfant. 2 enfants par jour meurent de maltraitance dans notre pays.
2 enfants par jour meurent
par
de
jour.
Maltraitance en France.
Oui.
À l'heure où on parle.
Oui.
Maître Jérôme Tibéri, vous êtes toujours avec nous, je crois. Comment réagissez-vous, vous, à ces réactions de téléspectateurs qui disent, voilà, ok, une claque, c'est pas non plus un traumatisme ?
Moi, je réagis de manière très claire. Bien évidemment qu'une claque, c'est un traumatisme. Bien évidemment qu'une fessée, c'est un traumatisme. Et j'ai toujours cette comparaison et ce parallèle de dire, pourquoi est-ce qu'on aurait le droit d'agir de la sorte sur un enfant ? Pourquoi est-ce qu'on interdit de tels agissements sur un adulte et pas sur un enfant ? Pour aller même plus loin, on a toute une évolution législative sur les animaux. On interdit la maltraitance animale. On reconnaît le traumatisme que ça peut causer aussi. Aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on se donne ce droit sur les enfants ? C'est quand même ahurissant.
Bruno, jeudi.
Non, sur la maltraitance animale, on est moins que maître et raison, mais on en est quand même loin.
On en est encore moins.
Il y a des progrès qui doivent être faits.
Et puis, alors, une claque. Alors après, ça dépend. Je veux dire, parfois, des parents, de magnifiques parents, sont poussés à bout par un gamin. Il y a une claque qui part. Il y a claque et claque. Il y a une claque qui part. Le parent le regrette. On en parle, etc. Mais il faut pas non plus décrire cela comme, je veux dire, c'est pas, faudrait pas que ce soit que les parents qui un jour, par énervement ont mis une claque à leur enfant, se sentent terriblement coupables. Là aussi, ça peut arriver. Le problème, c'est quand la claque, elle est répétitive, qu'elle est très forte, qu'il y a des menaces et qu'il y a ce climat de peur qui fait que l'enfant est...
Qui a intégré dans
le cas. Qui était le cas. Je veux dire, il y a beaucoup de parents qui ont parfois donné une claque et qui le regrettent et qui ne sont pas des tortionnaires pour autant.
Que le parquet général se forme un pourvoi en cassation, c'est rare?
Oui. Ah oui, c'est très rare. En général, effectivement, ce sont les justiciables qui ne sont pas d'accord avec une décision qui peuvent effectivement former un pouvoir en cassation.
Là, en l'occurrence, c'est parties civiles qui peuvent être des associations
de défense. Exactement. Oui. Là, que le parquet général le fasse, oui, c'est assez rare.
Je vais vous dire, le fait qu'il y ait des cours d'appel et que là, il y ait une cour de cassation, ça montre aussi, c'est terrible, en fait, pour la famille, pour les enfants, etc., qui sont les victimes, mais ça montre qu'il y a quand même un dialogue dans notre institution judiciaire et que c'est pas un juge tout seul, en fait, qui est capable de décider si, oui ou non, un homme violent
c'est
est
la grandeur de la démocratie exactement. Qu'un jugement puisse être remis en cause deux fois, justement.
Oui. A priori, donc, l'issue... on la connaît, mais comme c'est une décision illégale.
Oui, il y a peu de chances que ça fasse jurisprudence, évidemment. Donc voilà, on attendra
mais
la décision.
C'est pas mal, ça donne l'occasion d'en reparler.
Je pense que c'est un texte qui est insuffisamment connu.
Et bien sûr, mais parce qu'en fait, vous avez deux types de lois. Vous avez les lois, par exemple, comme l'IVG, qui viennent sanctionner une pratique qui était déjà existante, mais très dangereuse, parce que pratiquée illégalement. Et des lois plus d'avant-garde. Et la loi de 2019, c'est plus une loi d'avant-garde.
Il faut rappeler que c'était une proposition de loi qui menait d'un groupe. Enfin voilà, c'était pas non plus un projet porté au plus haut niveau.
Par toute la société.
Il a été soutenu aussi par le gouvernement.
Dans la sphère familiale, on estime qu'il y a une sorte de droit de vie et de mort qui est absolument, absolument intolérable. Les châtiments corporels sont interdits depuis 1803, donc depuis plus de deux siècles dans l'école. Moi, j'ai été battu à l'école. J'étais battu, j'étais même avec un fouet.
Par vos enseignants?
Par mes enseignants, oui.
Oui, ça n'a pas encore été intégré. Et aujourd'hui encore, on a vu ce sondage. Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur cette décision de la Cour d'appel de Metz.